le brasier qui consumera le vieux monde sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde.
Brasero Brassage Radio, Canal Sud 92.2. Alors, aujourd'hui, je saisis l'occasion de la diffusion d'un film, mercredi prochain, traitant de la lutte des migrants mineurs isolés à Toulouse au sein du collectif Autonomie. Alors bien sûr, cette lutte s'inscrit dans la série des mesures visant à faire de l'Europe une forteresse imprenable. Cette fois-ci, c'est le Conseil général de la Haute-Garonne qui a décidé l'été dernier de ne plus prendre en charge les migrants mineurs isolés. Même si la loi française et les conventions internationales obligent les pouvoirs publics à prendre en charge les mineurs, les demandeurs d'asile, les réfugiés, etc. L'État et les collectivités se torchent allègrement avec tout ça, mettant dans la merde des milliers de personnes de Breil-sur-Roya à Calais en passant par Toulouse. Donc voilà, pour les détails de ce qui se passe à Toulouse, je vous renvoie donc à ce mercredi 31 mai à La Chapelle, 34 rue Daniel Casanova, pour la projection d'un film et la présentation du collectif. Une discussion aussi va avoir lieu, ce sera à partir de 20h. Mais pour vous inviter à y aller voir, je vous donne à entendre aujourd'hui un collage de paroles qui pourrait bien servir d'analyse de la situation. À faire une analyse de ce que nous vivons et de ce que l'on entend parfois nommer comme le drame des migrants ou la crise migratoire. La belle affaire, drame et crise, des mots qui masquent, des mots qui occultent. On pourrait aussi dire la crise des frontières. On serait plus dans le vrai, mais il manquerait encore. Le drame de l'homme forteresse, pas mal. On reste quand même dans le vague. C'est sûr qu'il est difficile de résumer dans une simple phrase, dans deux petits mots, à la fois l'accumulation de lois visant à rendre impénétrable l'espace européen et l'histoire de la colonie, de la division internationale du travail, du capitalisme, du racisme d'État. Toutes ces choses qui aboutissent à faire de la Méditerranée, la mer qui a relié un monde pendant des milliers d'années, un cimetière. Donc aujourd'hui, un collage de paroles de personnes prises dans ces situations, enregistrées récemment ou pas. Des textes aussi pour éclairer nos lanternes et pour nous aider à pouvoir dire « Abat l'infâme régime social qui engendre de pareilles horreurs ». Vous allez entendre notamment des extraits de l'enquête du collectif Précipité, manuel pour les habitants des villes, un membre du collectif Autonomie ici à Toulouse qui s'est exprimé au Bazar au Bazacle en mai dernier, et pour commencer, un petit poème de Bertolt Brecht, dédié à toutes celles et ceux qui font ce qu'elles peuvent là où elles sont et qui parviennent parfois à adoucir un peu la misère de ce monde. Un gîte pour la nuit. On me dit qu'à New York, à l'angle de la 26e rue et de Broadway, un homme, chaque soir, se tient les mois d'hiver. Il procure aux sans-abri, qui se rassemblent là, un gîte pour la nuit qu'il demande aux passants. Le monde n'en est pas changé. Les rapports entre les hommes n'en deviennent pas meilleurs. L'ère de l'exploitation n'est pas abrégée pour autant. Mais quelques hommes ont un gîte pour la nuit. Le vent toute une nuit sur eux ne soufflera. La neige qui était pour eux tombera dans la rue. Ne pose pas ton livre encore, homme qui lit ces phrases. Quelques-uns sont pourvus d'un gîte pour la nuit. Le vent toute une nuit sur eux ne soufflera. La neige qui était pour eux tombera dans la rue. Mais le monde n'en est pas changé pour autant. Les rapports entre les hommes n'en deviennent pas meilleurs. L'ère de l'exploitation n'est pas abrégée pour autant.
Tuve ninguna oportunidad. Jamás fui a un lugar donde sur son odorat. Podrido, 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 seguro hogar europeo, puro hogar, podrido hogar, libre y bello hogar europeo.
C'est là-bas qu'on nous envoie pour les hébergements. Et il y a aussi la douche, et quelquefois de la nourriture. C'est là-bas qu'on nous donne aussi les tickets de vestiaire. Si quelqu'un n'a pas de vêtements. Et il y a un docteur, il y a un psychologue, il y a une aide juridique. Et moi, je vais voir l'aide juridique, Alice. Elle est très gentille, c'est une jeune. Je ne sais pas si elle est stagiaire ou si elle est travailleuse. En tous les cas, elle m'a promis qu'elle va venir avec moi à la préfecture. Et c'est la première fois que quelqu'un fait ce geste avec moi. Quand le général de Gaulle est venu au mois de mai 58, j'étais au collège, au lycée Lavant, on nous a emmenés. Et quand on nous a emmenés, on a rassemblé toutes les classes. Tous les élèves, on nous a bien habillés, tout ça, on nous a donné de beaux vêtements. Et c'était, il fallait qu'on dise vive le général de Gaulle, vive la France et tout ça. Et on nous a, je me rappelle, je m'étais évanouie et on m'a donné un sucre avec l'éther. Et c'est la première fois que j'ai goûté à l'éther. Donc, on est allé et le général de Gaulle était là. Et il a fait un discours. Je me souviens très bien que je l'ai vu, mais je n'ai rien entendu et rien compris. Il parlait que l'Algérie, qu'il fallait que l'administration coloniale donne de l'importance aux gens du pays. C'était le plan de Constantine. C'est-à-dire qu'il fallait rentrer les Algériens dans l'administration. Parce que vous, je ne sais pas si vous savez, mais les Algériens n'étaient pas considérés comme des Français. C'était des riens. C'était des indigènes. Donc, la France est là. Elle est en Algérie. Mais toi, tu n'as pas... par exemple, nos parents ne sont pas considérés comme des Français. Donc, ils n'ont pas le droit à certains travaux, à certains boulots, à certaines universités.
Et vous avez l'autorisation de travailler ou pas? Ça, c'est possible de le demander. Hein. Bah, et ça, il faut faire la demande, en fait, à la direction du travail. Ouais. Ouais. Je serai pas là le matin, donc l'après-midi, d'accord? Ok. Au revoir, bonne journée.
Donc, je sais pas si vous vous rappelez de ce que vous m'avez demandé.
Si, il me semble, hein, je vous ai demandé de ramener les preuves de votre présence en France depuis les dernières années. Voilà.
Donc, je vous ai pas ramené les originaux. J'ai même pas ramené toutes les photocopies parce que, comme ce matin, on était pressé et l'assistante sociale, elle avait le cartable. Mais c'est pas grave, je vous ai ramené le récapitulatif.
D'accord. Alors. Et vous avez bien, pour chaque année, plusieurs documents.
Oui, bien sûr.
Vous avez classé année par année
ou pas ? Oui, oui, c'est pas... Attendez, je vais vous montrer un document dans lequel tout est classé. Ça, c'est la lettre de la CIMAD qui a été faite à la préfecture. Alors là, vous avez la date. Voilà. Ça, dans cette lettre, vous allez avoir toutes les preuves de ma présence pendant 15 ans. Mais là, ils m'ont demandé 10 ans, donc il y a... vous voyez, depuis 85. Mm-hmm. Bon, mais on n'a pas besoin de ça, on a besoin de 92.
92, ouais.
Voilà. Ensuite, comme il n'y a rien eu, la CIMAD m'a orientée chez un avocat.
D'accord.
Il a fait une requête.
Au tribunal.
Hein. Oui, il a fait une requête au tribunal.
D'accord.
Ça, c'est bon, c'est rien. Donc, à la suite, quand ils ont reçu la lettre de mon avocat, ils m'ont dit, Madame, vous présentez-vous avec les originaux. Je me suis présentée un jour parce que je reçois mon courrier chez Madame Dos Santos. Et elle n'a pas pu me contacter à cause de mon téléphone. Et quand elle a pu me contacter, j'ai couru. Et j'avais un jour de retard. Et quand je suis arrivée, ils ont refusé de me parler. Ils m'ont dit, pourquoi vous n'êtes pas venue hier ?
Ils ont pardonné un autre rendez-vous.
Je les ai suppliés, je leur ai dit, redonnez-moi seulement un rendez-vous. Ils ne m'ont pas donné de rendez-vous. Je me suis représentée un autre jour avec mes originaux. Et là, une demoiselle gentille comme vous m'a acceptée. Et elle a vérifié tous mes originaux. J'ai dit, est-ce que maintenant je peux perdre mes originaux ou les égarer ou les cacher ou... Parce que là, j'ai un casse-tête parce que je suis en foyer et tout ça. Je peux les perdre. Elle m'a dit, soyez tranquille. Maintenant, la vérification a été faite. On va vous appeler juste pour vous donner votre titre de séjour. Vous allez ramener vos photos et on vous donne votre titre de séjour. Et depuis ce jour-là, rien.
Alors, je reviens sur le mépris des gens. Parce qu'on est sans papier, on ne vaut plus rien. Pourtant, ce n'est pas ça ce qu'on apprend. Alors, comme vous avez dit, on dirait que les exactions de l'époque coloniale se sont transportées ici. Et nous, les fils ou les petits-fils des anciens colonisés, nous venons encore subir ce que nos parents ont subi dans le temps sous l'impulsion des colonialistes.
Maintenant, c'est là où vraiment il faut poser le problème par rapport à l'application de la loi. Et par rapport à ce que devrait être une administration quand même fiable, qui ne peut être fiable que par le travail de ses agents,
Il y a aussi.
Est-ce que quelque chose a été fait? Ou pourquoi cette impression de malveillance générale?
Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, il faut lui demander le historien. Quelqu'un qui t'a dit tu n'as pas le droit, tu dis oui, j'ai le droit. C'est mon droit et mon devoir pour avoir tout ce qu'il faut ici. Parce que le pays là aujourd'hui, qui est bien, qui est comme un paradis, c'est notre souhait. Et puis c'est notre richesse aussi.
J'avais 20 ans quand je vis pour la première fois le bois de Vincennes. Je représentais le simulacre de moi-même et de mon peuple. J'étais étrangère, enfermée par la grande France coloniale, celle du maréchal Lyautey, de Paul Reynaud, de Joséphine Baker. C'était en 1931. Il nous exposait aux yeux des spectateurs curieux de visiter l'exposition coloniale.
Quelques minutes suffisent à l'heureux visiteur de l'exposition internationale pour accomplir une traversée qui demande d'ordinaire de longs jours à bord des plus grands paquebots. À peine a-t-il posé le pied sur l'île des Cygnes qu'il découvre l'artisanat syrien et libanais de nos États du Levant. Deux pas à peine le conduisent à nos protectorats du Maroc et de Tunisie, puis dans une ruelle de la Casbah d'Alger. Un saut de puce et le voici au cœur de l'AEF, dans un village pygmé de l'Ouban-Guichari. Plus loin, près du pont de Passy, c'est l'AOFT Tombouctou et ses mystères, Abonné et le palais du roi Gléglé. Le visiteur découvre ainsi la diversité de la mission civilisatrice de la France dans ces colonies dont les indigènes peuvent ainsi entretenir et développer une activité laborieuse conforme à leur mentalité comme à leur tradition, tout en bénéficiant progressivement des avantages incomparables qu'apporte notre civilisation industrielle.
Nous étions adolescentes aux seins nus, exhibées au regard concupiscent des visiteurs. Nous étions condamnés à simuler toutes sortes d'indigènes exotiques. Nous étions canaques, enfermés dans nos cages, nous devions jouer aux cannibales pour impressionner le public. Peu nombreux furent ceux qui s'opposèrent à cette glorification du colonialisme. Le Parti communiste organisa une contre-expo et les surréalistes dans un tract crièrent
« Ne visitez pas l'exposition coloniale !» Ne visitez pas l'exposition coloniale! Ne visitez pas l'exposition coloniale!
Plus de 8 millions de personnes ne suivirent pas cette consigne. Ils furent séduits par l'innovatrice machine publicitaire de l'époque. J'étais agressive. Les spectateurs et les photographes en étaient surpris. Ils s'attendaient sans doute à ce que je sois naturellement souriante.
Thank you.
J'ai 20 ans, je me trouve à côté de l'exposition d'hier et de l'insouciance d'aujourd'hui. À nouveau en cage, mais caché du regard des badauds, interdit au regard de ceux qui voudraient savoir. En attente d'être expulsés, nous sommes enfermés parce que considérés comme étrangers indésirables. Nous sommes au centre de rétention, juste en face de l'hippodrome. Ici, au fil des jours, des mois, nos révoltes se poursuivent. Le 21 juin 2008, Salem Essouli est mort. Il était malade. Les policiers qui nous gardent lui ont refusé les soins dont il avait besoin. On a gueulé, on a manifesté notre colère. Ils nous ont tabassés et gazés. Le lendemain, nous nous sommes révoltés, une fois de plus.
Rosa Luxembourg publie le 1er janvier 1912 dans le Journal des femmes socialistes un texte intitulé « Dans l'asile de nuit ». Le texte part de l'émoi provoqué par une intoxication massive due, semble-t-il, à l'ingestion de harengs périmés. Ce harengs périmé avait été distribué aux sans-abri de la ville par des organismes de charité justement dans un asile de nuit. Donc à partir de ce drame, comme on dit, elle va faire en sorte de remonter de ce fait divers à la réalité qu'il révèle ou qu'il masque. C'est selon la lecture qui en est faite, le point de vue qu'on adopte. Quelques extraits de ce texte qui me semblent peuvent être rapportés à ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc après avoir décrit les faits et les mois qui s'en est suivi, les larmes de crocodile et les agitations stériles des bonnes âmes, elle enfonce le clou. Toute l'affaire a produit dans la vie publique une dissonance criarde. D'habitude, notre société, en gros, a l'air de respecter les convenances. Elle prône l'honorabilité, l'ordre et les bonnes mœurs. Certes, il y a des lacunes dans l'édifice de l'État, et tout n'est pas parfait dans son fonctionnement. Mais quoi ? Le soleil lui aussi a ses tâches, et la perfection n'est pas de ce monde. Les ouvriers eux-mêmes, ceux surtout qui perçoivent les plus hauts salaires et qui font partie d'une organisation, croit volontiers que, tout compte fait, l'existence et la lutte du prolétariat se déroulent dans le respect des règles d'honnêteté et de correction. La paupérisation n'est-elle pas une grise théorie depuis longtemps réfutée? Personne n'ignore qu'il existe des asiles de nuit, des mendiants, des prostituées, une police secrète, des criminels et des personnes préférant l'ombre à la lumière. Mais d'ordinaire, on a le sentiment qu'il s'agit là d'un monde lointain et étranger, situé quelque part, en dehors de la société proprement dite. Entre les ouvriers honnêtes et ses exclus, un mur se dresse. Et l'on ne pense que rarement à la misère qui se traîne dans la fange de l'autre côté de ce mur. Et brusquement, survient un événement qui remet tout en cause. C'est comme si, dans un cercle de gens bien élevés, cultivés et gentils, au milieu d'un mobilier précieux, quelqu'un découvrait par hasard les indices révélateurs de crimes effroyables, de débordements honteux. Brusquement, sous les apparences frivoles et enivrantes de notre civilisation, on découvre l'abîme béant de la barbarie et de la bestialité. On en voit surgir des tableaux dignes de l'enfer, des créatures humaines fouillant les poubelles à la recherche de détritus, d'autres se tordent dans les affres de l'agonie ou exhalant en mourant un souffle pestilentiel. Et le mur qui nous sépare de ce lugubre royaume d'ombre s'avère brusquement n'être qu'un décor de papier peint. Ainsi, chaque année, chez les prolétaires, des milliers d'existences s'écartent des conditions de vie normales de la classe ouvrière pour tomber dans la nuit de la misère. Ils tombent silencieusement, comme un sédiment qui se dépose sur le fond de la société, élément usé, inutile, dont le capital ne peut plus tirer une goutte de plus, détritus humains qu'un balai de fer éjecte. Contre eux se relaient le bras de la loi, la faim et le froid. Et pour finir, la société bourgeoise tend à ses proscrits la coupe du poison. Lucienne Sipipierowski, qui finit sa vie dans la rue empoisonnée par un hareng pourri, fait partie du prolétariat au même titre que n'importe quel ouvrier qualifié et bien rémunéré, qui se paie des cartes de nouvel an imprimées et une chaîne de montre plaquée or. L'asile de nuit, pour sans-abri, et les contrôles de police sont les piliers de la société actuelle au même titre que le palais du chancelier du Reich et de la Deutsche Bank. Et le banquet aux harengs et aux torboyaux empoisonnés de l'asile de nuit municipal constitue le soubassement invisible du caviar et du champagne qu'on voit sur la table des millionnaires. Messieurs les conseillers médicaux peuvent toujours rechercher au microscope le germe mortel dans les intestins des intoxiqués et isoler leur culture pure. Le véritable bacille, celui qui a causé la mort des pensionnaires de l'asile berlinois, c'est l'ordre social capitaliste à l'état pur. Chaque jour, des sans-abri s'écroulent, terrassés par la faim et le froid. Personne ne s'en émeut. Seuls les mentionnent le rapport de police. Ce qui a fait sensation cette fois à Berlin, c'est le caractère massif du phénomène. Le prolétaire ne peut attirer sur lui l'attention de la société qu'en tant que masse qui porte à bout de bras le poids de sa misère. Même le dernier d'entre eux, le vagabond, devient une force publique quand il forme masse, ne formerait-il qu'un monceau de cadavres. D'ordinaire, un cadavre est quelque chose de muet, de peu remarquable. Mais il en est qui crie plus fort que les trompettes et éclaire plus que les flambeaux. Au lendemain des barricades du 18 mars 1848, les ouvriers berlinois relevèrent les corps des insurgés tués et les portèrent devant le château royal, forçant le despotisme à découvrir son front devant ses victimes. À présent, il s'agit de hisser les corps empoisonnés des sans-abri de Berlin, qui sont la chair de notre chair et le sang de notre sang, sur des milliers de mains de prolétaires et les porter dans cette nouvelle année de lutte en criant « À bas l'infâme régime social qui engendre de pareilles horreurs !»
Baccalauréat scientifique, 89. Diplôme d'état d'infirmier, 93. Batna, Algérie. Formation école paramédicale, Algérie. Durée de la formation, c'est 3 ans, de 91 à 93. Niveau d'études, c'est Bac plus 2. Expérience, hôpital CHU de Batna, en qualité d'infirmier, 93-98. Dans les services suivants. Service des urgences chirurgicales, 12 mois. Service bloc opératoire, 12 mois. Service de cardiologie, 12 mois. Service chirurgie femme, qualité de chef du service, 24 mois. Au niveau de l'APC, mairie de Batna. Service d'hygiène, 8 mois. Ça, c'est des fois, j'ai fait des CV pour envoyer au niveau des hôpitaux, la DAS. Des fois, j'ai déposé mon dossier, dossier administratif. Je dépose mon dossier comme ça pour faire des efforts, pour voir les formations au niveau administratif. Je sais, je n'ai pas le droit de travailler, je n'ai pas le droit de faire une formation, mais tellement, j'ai fait comme ça. J'ai fait semblant, ça veut dire psychologiquement, j'ai fait comme ça. Pourquoi j'ai fait des efforts, j'ai déposé mon dossier là, juste pour garder le moral. J'ai fait semblant pour garder le moral. Ouais. Non, toujours, parce qu'on est toujours à l'espoir. mais donne mon papier pour travailler, juste pour, comment dirais-je, pour donner l'oxygène, pour vivre, t'as vu. C'est pas, j'ai pas demandé la richesse, moi, j'ai pas demandé, tu me donnes un papier pour rentrer à la paradis ou pour être une place de Chirac ou quoi. Donner juste un beau papier pour travailler, j'ai pas demandé l'impossible, j'ai pas demandé la lune, ça c'est clair. Franchement, ils ont torturé les gens pour un beau papier, et laisser les gens souffrir, franchement. C'est pour ça que j'ai envie de sortir le plus vite possible. C'est pour ça que j'ai occupé ma tête par une formation. Tellement je traînais avec les foyers, j'ai pas envie, j'ai traîné au foyer deux, trois fois. J'ai resté à Saint-Martin, une semaine, c'est un hôtel social comme ici. Je ne peux pas vivre dans les foyers, franchement, je connais bien les foyers. Tellement j'étais presque, au début quand j'ai rentré ici à Paris, j'ai resté presque trois ou quatre mois à Boulevardier pour de la chapelle. Tu ne peux pas imaginer, franchement. J'ai resté 2 jours à Nanterre, c'est que des fous, des clochards, franchement, tu peux pas. Et après, je l'ai effacé tout de ma tête. J'ai envie de sortir le plus vite possible, sinon je deviens fou, un clochard. Ou... Je peux pas expliquer ma vie à mon père, parce que mon père, ils disent, Nasser, il est bien et tout. Toujours, je lui donne la bonne image à mon père. Parce que si loin de moi avec ma mère, je peux pas dire, je suis dans la galère, je suis tard, j'ai pas à travailler aujourd'hui, tard, je suis en foyer. Je peux pas. Je peux pas. Comme ça, c'est l'idée comme ça, il m'a dit, mon père, il vient rentrer direct. C'est sûr, ça c'est clair. Au moins, je porte avec moi une fleur en Algérie, ça veut dire une fleur, un diplôme ou je sais pas.
Voilà, les deux derniers mois sont sur papier ici.
D'accord.
Puis le restant, 1282, sur microfiche. Et vous avez aussi la possibilité de les consulter sur nos ordinateurs. Mmh. On a les versions numériques.
D'accord. Non, sur le journal, c'est les deux...
Les deux derniers mois, ouais, c'est ça, c'est les lois et décrets.
D'accord.
Donc là, vous avez celui du 18 mars, enfin du 16 mars, dimanche.
D'accord. Voilà. Merci, je vous remercie. Bien.
Okay.
Merci. Donc là, c'est dimanche 16 mars 2003. Ça, c'est le dernier, sur le numéro 64. Numéro 64. Ça, c'est le numéro 63. Donc, ça, c'est le dernier. Journal officiel de la République française, ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Pour les candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé pour l'exercice de cette profession en France. Je vais aller direct à la source d'informations, ça veut dire la source de... des articles, la source de est-ce que j'ai le droit de faire une formation, est-ce que j'ai le droit de travailler ou pas. C'est ça que je vais aller direct à la source. Voilà. C'est comme ça, il y a toujours des lois qui sortent, donc c'est pour ça que je suis intéressé par le journal officiel. Donc il y a chaque année, il y a des changements des lois, donc c'est pour ça. Donc là, j'ai tout comme l'article, qu'est-ce qu'elle a demandé, j'ai tout. Moi, et le problème, c'est la carte du séjour. Donc là, j'attends toujours. J'attends.
Parce que nous, on a un complexe. Ouais. Tu rentres en France pour travailler, pour ramasser de l'argent. Si tu ramasses un magot d'argent, si tu te maries et tu as tes papiers, ok. Ça se comprend. Si tu retournes en bled, sans papier, sans argent, sans rien, c'est mal vu.
C'est une honte, voilà.
Tu vois, c'est une honte pour nous.
C'est raté, c'est loupé.
Donc le gars, qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit, tiens, c'est entre l'enclume et le bâton. Je retourne en Algérie, purée, c'est la catastrophe, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il y aura à se foutre ici? Eh bien, je vais galérer. Alors moi, je vais te dire un truc. Par exemple, en Algérie, je pose le cas de l'Algérie parce que c'est mon pays. Je dis un truc, hein. S'ils enlèvent les visas, tous les Algériens vont partir en Algérie.
Non, c'est
sûr. Je te dis, hein, parce qu'ils vont sûr qu'ils vont repartir en Algérie, ils vont revenir en France, ils vont repartir en Algérie et revenir en France. Là, ils ne peuvent pas descendre en Algérie. Parce qu'ils disent, si on va descendre en Algérie, on est cloué. il n'y aura pas d'autre visa. Mais s'il n'y aura pas de visa, ils peuvent descendre et remonter. Il y aura cette navette.
Pour poursuivre son idée, oui. S'il n'y avait pas cette contrainte, avec la difficulté, quand quelqu'un est sûr de revenir, il dit non, je repars au pays, je vais encore aller voir, puis je reviendrai.
Il se calme, il se calme.
Il repartait. Mais là, puisque il y a une impossibilité d'avoir... il faut traverser des montagnes, traverser des océans pour avoir le visa. Et une fois qu'on l'a, on le garde. Quelles que soient les difficultés, on ne veut plus repartir.
Que vivent les mineurs isolés à Toulouse, dans bon nombre de coins aussi en France. Nous, mineurs isolés, moi particulièrement, nous avons vécu la même situation, sauf qu'aujourd'hui, nous avons été placés dans les foyers et nous sommes dans les appartements maintenant. Mais cela ne veut pas dire que le combat est fini ou que non, la lutte est terminée, non. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que moi je suis dans un foyer ou que je suis dans un appartement, je vais dire que non, ben ça va, je me croise les bras, je m'asseye, je regarde ma télé, bien, je vais à l'école. Mais, et mes amis qui en souffrent encore. Peut-être pas ceux-là et ceux qui vont devenir derrière. Hier, nos situations ont été très difficiles. Aujourd'hui, celle des amis, ça l'a été. Mais qui sait, celle des autres qui vont venir demain, nous ne savons pas. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, nous menons cette lutte, nous menons ce combat avec l'autonomie, ce collectif. Donc vraiment, je ne cesse de remercier aujourd'hui et je ne cesserai de remercier. Même quand je serai chez moi un jour en Guinée, franchement, je ne vais jamais oublier ce collectif qui est autonomie. Allant de cela, qu'est-ce que je vais dire? L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui était censée m'inscrire à l'école, qui était censée me protéger, me prendre en charge, ben, j'avoue aujourd'hui que non, ils ne l'ont pas fait. Sinon que c'est ce collectif qui a joué leur rôle à leur place. C'est ce collectif qui m'a inscrit, qui m'a donné beaucoup d'espoir, avec beaucoup de combativité que nous avons eu à mener ensemble devant le SAMI, la permanence que le collectif a eu à mener dans les logos du SAMI, franchement, ça a aidé bon nombre de jeunes, parce qu'à l'époque, nous étions 250 jeunes à l'hôtel. Rien que dormir avec des tickets de flinche, 2 fois 9 ou 18 euros par jour, la journée et le soir, on va, on mange aux flinches, on vient à l'hôtel, on redort encore. Rien que cela, mais un jeune qui veut de l'avenir, un jeune qui veut évoluer pour devenir quelqu'un de demain, Mais ce n'est tout de même pas dans le sommeil que tu vas réaliser tes rêves. Nous avons quitté l'Afrique. Ce n'est pas pour venir en France pour se coucher. Si c'est pour dormir, ben bon, on a des lits aussi chez nous. Vous m'excusez, quelqu'un que je vais exploiter. On a des lits aussi, on peut se coucher matin, midi, soir pour dormir. Mais non, nous avons tous eu l'initiative de venir en France. Et ce n'est pas parce que nous avons entendu parler que oh, la France, ouais, le nom F-A-F-R-A-N-A-C-E. Non, ce n'est pas cela. C'est parce que ouais, nous avons eu des visions avec la France. Vu que nos pays ont des trucs d'accord, ont des projets d'accord avec la France, nous avons choisi la France. Comparativement aux autres pays, l'Allemagne par exemple, la Belgique, des amis qui nous appellent là-bas. Oh mais mec, venez ici, ici il n'y a pas de problème, ici on ne nous embête pas. Non, on s'en fout de vous là-bas. Qu'ils vous embêtent ou pas, on s'en fout. Nous on veut une bonne éducation. Parce qu'on se dit que quoi, non les Français, ben, en fait ils donnent une bonne éducation aux enfants. Mais si je vais là-bas étant mineur, l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, mais pourquoi ne pas me donner la même? Ça va m'arranger beaucoup dans l'avenir. Alors nous avons choisi la France pour avoir un bon lendemain meilleur, une bonne formation surtout. Parce que ben, aujourd'hui, je suis inscrit au lycée, j'ai été inscrit par ce collectif. Alors que c'est l'ASE qui devrait le faire, mais c'est le collectif qui m'a inscrit moi. Si je me permets, je peux dire leur nom, Inès et Stéphane, qui m'ont inscrit au lycée Urbain Vitry. Et donc vraiment aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis l'un des meilleurs, mais franchement, je suis fier de moi. Je suis vraiment fier de moi parce que je fais le maximum de moi pour arriver à un niveau meilleur. Donc, j'obtiens ce diplôme. Je n'ai pas l'idée de m'éterniser en France. Peut-être s'il y a un de mes frères qui veut venir en France, qui veut parcourir le même trajet que j'ai fait, sachant que vraiment c'est un trajet très risqué, passer la Méditerranée et voir des amis qui en meurent aussi devant toi, franchement, c'est très très triste. C'est très triste de voir des personnes mourir sur la Méditerranée en traversant. Et bien, si je veux voir un de mes frères ou un de mes amis qui veut venir, moi j'ai déjà mon diplôme. Par exemple, je fais la menuiserie construction bois. J'ai déjà mon diplôme de CAP ou de BTS par exemple, ou de Bac Pro. Ben, je crois qu'avec cela, je peux monter mon projet. Je peux monter un projet en Guinée chez moi. Mon petit frère veut venir dire, mais non, vas-y mon frère, laisse tomber, ne va pas. Ne fais pas la même chose que j'ai fait. Peut-être que moi j'avais fait une erreur, mais je me suis rattrapé en obtenant ce diplôme. Alors vraiment, j'aimerais que tu restes avec moi, travaille dans mon entreprise et puis comme ça, ça va t'empêcher de traverser la même merde que j'ai foutu, que j'ai connue quand je suis allé en France. Là, je crois que j'ai diminué le flux migratoire. Mais si je n'ai rien, ben oui, si je me permets, si je n'ai rien apporté en Guinée, je n'ai rien, parce que l'aventure, nous chez nous, on est du quoi? L'aventure nous donne deux choses. Soit tu réussis, soit tu ne réussis pas. Et si tu réussis, tant mieux. Mais si tu ne réussis pas aussi, n'oubliez pas que c'est un danger qui est là. Parce que si je ne réussis pas, je vis avec bon nombre de cultures dans ma tête. Je vis avec beaucoup de choses que je vais savoir aussi. Et là, avec le gouvernement en place ou le régime en place, je serai rebelle contre ces gens-là. Qui sait si je peux former la rébellion ou quelque chose? Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Là, c'est ce que l'aventure donne. Mais là, vraiment, moi, je dis Dieu merci. Je remercie Dieu qu'aujourd'hui, je ne suis pas sur ce genre de chemin. J'ai un métier. Mais mon combat n'est pas fini. Mon combat n'est pas fini. Je dois avoir un diplôme de l'État français. Ici, si je me permets, j'ai un diplôme ici. Ben, ça va, je me retourne chez moi, je travaille tranquille. Mais et mes amis qui en souffrent? Nous avons tenu des manifs devant le conseil départemental. 250 jeunes qui dormaient à l'hôtel. Aujourd'hui, ils sont tous dans leur foyer. Mais voilà, il y a certains aussi, il y a d'autres qui sont là aussi aujourd'hui, qui viennent d'arriver, qui ont été évalués par le Daomi, un dispositif, je ne sais quoi. Un dispositif que moi je qualifie qui n'est pas là pour protéger les mineurs, mais plutôt pour chasser les mineurs. Parce que c'est le conseil départemental qui était censé le faire. Mais ils ont légué une partie de leur pouvoir au Daomi. Mais le Daomi, ce n'est pas ce que le conseil a demandé que le Daomi fait actuellement. Mais plutôt le Daomi les chasse. Et qu'est-ce qu'il faut? Ben, on fait les textes osseux. Mais si ça va à la deux marges de tolérance de 19 ans, mais ça va, c'est quoi ça? Mais pourquoi si un mineur français est en danger, mais pourquoi on ne peut pas aussi regarder son test osseux? Pourquoi que les mineurs étrangers isolés, alors que nous sommes censés avoir les mêmes droits? La France que nous avons tant entendu que la France de l'égalité, fraternité et de liberté. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Et ce n'est pas ce que nous pouvons raconter à nos amis ou à nos frères qui sont au bled là-bas. Mais si la France nous montre cette égalité, cette liberté, cette fraternité, Mais vraiment, pourquoi ne pas aider les jeunes mineurs isolés qui viennent sur leur territoire, les protéger au lieu que de les mettre dans les rues? Si nous comptons, depuis le mois de juillet à nos jours, le Dahomey a mis combien de jeunes dans les rues? Plus de 250 jeunes. Alors que nous, alors, à l'époque, on était 250 à l'hôtel. Et nous avons tenu vraiment ce combat avec le collectif Autonomie pour pouvoir vraiment mettre tous ces mineurs dans les foyers. Mais aucun de ces mineurs aujourd'hui ne vient pour accompagner ces autres qui en souffrent. Pas parce que je suis là pour me flatter, non. Mais moi, je tiendrai ce combat. Je tiendrai encore autant à aider ce collectif Dahomey pour que tous ces mineurs aient aussi des droits comme nous, nous l'avons eu. Si je me permets. Parce qu'ils ne sont pas censés de rester dans les rues. Mais disons, si le collectif n'était pas là, qu'allait être le sort de ces jeunes aujourd'hui? Qu'allait être leur sort? Mais ils vont se retrouver dans les rues et par finir à la majorité, qu'est-ce qu'il a? On dit, ben, OPQTF, autorisation de quitter territoire français. Obligation de quitter territoire français. Quelqu'un qui a parcouru tant nombre de chemins, passé des pays, traversé voir la Méditerranée, qu'aucun Français, si vous me permettez, je m'excuse si les termes vous touchent, aucun Français n'osera traverser la Méditerranée. Jamais. Mais si nous l'avions fait, c'est avec beaucoup de courage. Seulement qu'avec la traversée de la Méditerranée, je crois que l'aide sociale à l'enfance peut avoir pitié de nous en nous aidant. Au fait, nous ne sommes pas là pour être des criminels, pour être des tueurs à gages. Mais nous sommes là pour avoir une formation, une éducation, afin pour devenir quelqu'un demain. Avoir notre autonomie demain. Aujourd'hui, bien, ouais, nous sommes censés être à leur dépendance. Mais si demain, nous obtenons ce que nous cherchons, mais l'aide sociale à l'enfance ne va jamais nous apporter de l'aide maintenant. Là, par contre, nous serons autonomes de nous-mêmes. Je travaille, je paie ma location, je paie ma nourriture. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Mais si l'aide sociale à l'enfance, qui est censée faire cela pour moi, ne le fait pas, mais je serai obligé à faire quoi? Soit il y a des gens qui vont m'appeler, ben viens, nous on a des réseaux de prostitution ici, on te met dedans. Ben voilà, je n'ai pas le choix. Sachant que j'ai laissé ma famille dans la misère, ou que mes parents sont décédés à ma présence, que vraiment ça a été des troubles chez moi. Parce qu'il y a certains d'entre nous aujourd'hui, ils souffrent. Ils souffrent, ils ont des problèmes psychologiques. Et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais si je pense à tout cela, toutes ces traversées que j'ai eu à faire, et que je me trouve aujourd'hui abandonné par l'aide sociale à l'enfance qui est censée m'aider, ou qui est censée me protéger, je serai obligé de faire quoi? Je serai obligé de faire n'importe quoi. Soit je me lance dans la prostitution, ou je me lance dans des trafics de drogue ou d'autres choses. Mais si l'aide sociale il m'apporte le soutien, l'éducation et autres choses, ils me mettent dans des foyers, ils mettent ces jeunes dans les foyers. Je ne parle pas autrement de moi-même. Je parle de ces jeunes aujourd'hui dont vous voyez dehors qui sont assis. Ils sont touchés. Ils rient, ils sourient, ils parlent, ils font tout. Mais consciencieusement, ça ne va pas dans la tête. Ça ne va pas du tout dans la tête. Mais franchement, je dis Dieu merci. Je remercie encore une fois de plus ce collectif qui est Autonomie, qui ne cesse de mener ce combat, qui ne cesse d'aider ces jeunes qui en ont tant besoin d'aide. Et c'est pourquoi, franchement, moi aussi, je me tiens à leur côté, à chaque moment qu'ils en ont besoin, à chaque moment que je peux vraiment apporter quelque chose dans ce collectif pour aider ces jeunes, je le ferai tant qu'il y a moins, tant qu'il y a nécessité. Et vous qui êtes là aussi, présents aujourd'hui, si nous avons eu l'initiative de faire le bazar au bazar de venir présenter notre situation, la situation des mineurs isolés étrangers à Toulouse, c'est oui aussi parce que nous avons besoin de vos aides, de vos soutiens. Qui demande aide n'a pas besoin seulement que de l'argent ou quelque chose, mais psychologiquement aussi, ouais, avec des conseils, des petits cours de français, parce que c'est pas tout le monde qui parle français. Il y a certains d'entre eux qui ne comprennent pas, même peut-être je peux dire l'alphabet français si je me permets, mais rien qu'en apprenant l'alphabet français, tu l'as aidé quelque chose. Tu l'as aidé à devenir quelqu'un de demain. Mais en lui voyant comme ça, isolé, tu le laisses tranquille. Ça lui dit au moins A, il dit A. Mais là, en fait, si je me permets là, tu l'abandonnes, tu l'empires encore dans la situation, quoi. Et c'est ça de plus en plus isolé. Donc franchement, le don est là et les aides sont là, surtout les hébergements. Parce qu'en fait, le collectif, ils font le maximum d'eux. Mais ça ne va pas. Il y a certains qui appellent le collectif, qui disent, bon, nous avons des hébergements d'une semaine, de deux semaines. Après, ça s'arrête, quoi. Mais au fait, si ça s'arrête et qu'il n'y a pas d'autres pour appeler, ben, ça ne va pas. Le jeune, par contre, il va se retrouver dans la rue encore à dormir. Jusqu'à ce qu'on fait du recours. Et il y a des papiers aussi à authentifier à Paris, dans les ambassades, dans les consulats. C'est pas du tout facile, mais c'est vraiment un combat. Et ce combat, franchement, nous appelons à la bonne volonté de tout un chacun afin que vous puissiez aider le collectif et nous, les jeunes mineurs isolés. Je ne vais pas m'exclure, je fais partie encore. Malgré que je suis dans mon appart ou que non, je suis dans un foyer, mais je fais partie encore de ces jeunes mineurs. Je vais toujours continuer à lutter avec eux jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause.
Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero si llegué a Tijuana de puritos aventones, como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina.
Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada, como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verán cómo me fue. Llegué a Santa Ana con las patas bien peladas, los huaraches que llevaba se acabaron de volada, el sombrero y la camisa los perdí en la correteada que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaba. Me salí a la carretera muerto de hambre y desvelado, me subí en un tren carguero que venía de Colorado y con rumbo a San Francisco de un vagón me fui colado, pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron. Los gabachos, te regresas pa' tu rancho, pero yo sentí muy gacho regresar pa' mi terruño. Terracero fracasado, sin dinero y sin hilacho. Terracero fracasado, sin dinero y sin hilacho. Terracero fracasado,
sin dinero y sin hilacho.
Quand on les avait jusque-là tellement en source, en ressources, en plaisir, on baisse la tête accablée, on est impuissant, on est devenu débile à souhait. C'est tellement ce qui nous arrive. Je n'ai pas fait la liste, mais depuis que Macron a écrit Révolution, que Marine Le Pen a parlé de diversité, c'est phénoménal, c'est toujours plus. Toujours plus de mensonges, à devenir fous. Attention, nous allons devenir fous.
Nous devenons fous.
Nous devenons fous.
Nous devenons fous.
Nous devenons fous.
Guéant a été condamné à 2 ans, dont un avec sursis. Mais l'autre, l'année ferme, n'allait pas la faire non plus.
Non.
Ferme, mais pas ferme.
Oh, non.
Oui, mais non.
Mais non.
Non, mais oui.
Un viol n'est pas un viol.
Un accident.
Un accident ?
Un accident ?
C'est d'un atroce cynisme, la blessure de 10 cm dont l'anus est hors de doute.
Un accident.
C'est d'un atroce cynisme qui tue d'appeler la violence accompagnée d'insultes, hors de doute, accident.
Oui,
oui, mais
non.
Non, non.
Oui,
non,
mais
non.
Non.
Oui, mais...
Non.
La faute de la victime.
Un accident.
La vieille affaire.
Un accident.
Le vieux mensonge pervers.
Un accident.
Exactement lui, qui ne permet pas, ne permettra jamais à la victime de se retaper un peu, se réparer.
Mais un accident.
C'est tout le viol d'ailleurs qui est nié.
Ça n'existe pas.
Non.
La domination et la torture.
Non plus.
Non.
Comment briser quelqu'un? Il y a plein de moyens.
Plein.
Le viol et le déni du viol.
Un accident.
On est en train de devenir fou.
On est en train de devenir fou.
Je parle ici qui nous rendent fous. Des mots et des énoncés officiels. Je parle même pas des énoncés courants sur les réseaux sociaux de ce qu'on nomme cyberattaque. De 140 signes qui peuvent faire ou défaire des présidents. Les énoncés officiels mentent.
Le rapport de l'IGPN est une honte.
Une pure honte.
Un accident.
Les mots sont verts de honte.
Bleu, blanc, gyrophare.
Ils n'ont plus qu'une envie.
Se défiler.
Ils le voient bien, les mots, qu'ils cherchent à clouer au pilori le bon sens et quelque chose comme le rapport. Les rapports.
Le lien.
Les liens.
Les liens.
Ils s'étouffent.
Ils sont devenus fous, les mots, tués à force de servir
ils
à l'envers.
Ils sont devenus les mots tués
ils sont
à force de servir à l'envers. Ils sont devenus vecteurs de cruauté. On a la tête à l'envers.
Le corps
pèse le poids des pierres.
Vendredi,
alors qu'il neige ou presque à Paris, sous le pont, porte de la chapelle, la mairie a fait installer de grosses pierres. Ainsi, les personnes sans refuge ne pourront plus s'allonger les uns contre les autres pour se tenir un peu chaud sous ce pauvre abri qu'est le pont. Même pas un pont.
Même pas les corps contre les corps. Au lieu des corps.
Combien le prix d'une nuit pour une personne dans un centre d'hébergement?
On n'est pas seulement en train de devenir fou.
On devient fou!
On est en train d'accepter la grande cruauté qui vient. Où est venue?
Radio Canal Sud 92.2, 40 rue Alfred de Miril, numéro de téléphone 05 61 53 36 95. Pour l'antenne et pour le bureau, c'est le 05 61 25 95 43. Voilà. Canal Sud de 92.2. Voilà.
C'était Brasero. Vous avez pu entendre un poème de Brecht, un texte de Rosa Luxembourg, des extraits de l'enquête du collectif Précipité, manuel pour les habitants des villes où l'on entend des personnes qui en 2003, et ouais ça date, se débattaient déjà dans les plis de la machine à dégommer les vies. Une personne du collectif Autonomie ici à Toulouse, en 2017 cette fois-ci, donc aujourd'hui même, qui se débat encore et toujours dans cette même machine. Un extrait du film « Promenons-nous dans les bois » réalisé autour des luttes contre les centres de rétention et notamment, surtout lorsque les personnes enfermées au centre de rétention administrative de Vincennes avaient mis le feu à cette foutue tôle et la répression qui a suivi donc. Enfin, un dernier texte de Marie Cosnet, « La cruauté qui vient » de janvier 2017. Et n'oubliez pas, ce mercredi 31 mai, allez faire un tour à la chapelle à partir de 20h pour voir et entendre des personnes du collectif Autonomie. La semaine prochaine, Brasero revient sur les luttes dans la continuité de la semaine dernière. Ça sera la deuxième émission d'une émission en trois parties. Donc ne la ratez pas, c'est lundi prochain sur le 92.2 toujours. Force et courage à toutes et tous.
Quelqu'un est mort tout près d'ici. Je ne sais plus si c'est un voisin ou moi ou quelqu'un dans un livre. Les vaches ne peuvent pas dormir. C'est l'été, une fois de plus. Tiens, c'est l'heure du biberon. Mais c'est vrai que le bébé n'est pas né encore, je confonds tout. Le chat n'est pas rentré, c'est de son âge. Moi, je vous aime toujours, mais je ne souhaite pas vous voir pour le moment.
Mes enfants, le 19e siècle est terminé.
N'écoutez pas, Brasero!